Et voilà, il est 8h23, Paris, c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Norbert Navarro.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Avec la une de la presse française, la chute de Lula, l'ancien président du Brésil, est menacé de passer par la casse-prison.
Et oui, les portes du pénitencier pourraient en effet bientôt se refermer sur Lula. D'une seule voix, d'une seule, la Cour suprême du Brésil a rejeté le maintien en liberté de l'ancien président. Certes, la décision de la Cour n'est pas exécutoire, mais sans attendre, l'Humanité en une dénonce un coup de force. Et pour le quotidien communiste, le coup de force en question est tout à la fois judiciaire et militaire. C'est un tremblement de terre politique au Brésil, admet le journal Les Échos. Car pour le quotidien économique français, pas de doute, Lula va se retrouver derrière les barreaux. Certes, admet le Figaro, c'est la chute d'une idole, mais rien n'empêche le PT, le Parti des Travailleurs, son parti, de l'inscrire comme candidat à la présidentielle, dit un juriste à ce quotidien conservateur, ce qui reste à vérifier. Requiem pour Lula, nul ne se risque à le prédire, modère Libération, quoi qu'il advienne, il pèsera sans nul doute sur le scrutin, car Lula garde le soutien inconditionnel d'une bonne part de l'intelligentsia et reste le champion des couches populaires, ce que l'on appelle ici le lulisme, et presque une religion, souligne encore Libé, qui relève aussi que le potentiel électoral de Fernando Haddad, l'ancien maire de São Paulo, pressenti actuellement comme plan B par le Parti des Travailleurs, reste inconnu.
En Hongrie, Norbert, c'est dimanche que les électeurs sont appelés à voter pour les législatives. Et durant la campagne électorale, les partis extrémistes ont fait de la surenchère contre les étrangers.
Reportage de Libération à Győr, prospère cité industrielle du nord-ouest du pays et fief conservateur. Ici comme ailleurs en Hongrie, l'afflux massif de migrants venant du Moyen-Orient et d'Afrique, arrivés par milliers par la frontière sud du pays à l'été 2015, a été un traumatisme, souligne Libé, et surenchère en effet, car derrière le parti du Premier ministre Viktor Orban, le second favori aux élections, le Jobbik, est à l'origine une formation d'extrême droite xénophobe et anti-européenne. Illustration avec cette affiche de campagne, placardée sur les murs de Győr, comme dans d'autres villes de Hongrie, et sur laquelle on voit une grande colonne d'hommes à la peau mate qui marche, alors qu'un panneau stop barre la photo.
En France, après les cheminots, ce sont les étudiants qui bloquent les facs, tout du moins une partie d'entre eux.
Oui, les blocages sont limités, mais ils menacent la bonne tenue des examens de fin d'année universitaire et la mobilisation prend de l'ampleur. Qu'attend le gouvernement pour agir, s'insurge le Figaro. Au spectre de la contagion sociale, il est urgent d'opposer la contagion de la fermeté. Dans le journal Le Parisien, le président de l'université Paris 1 Sorbonne, Georges Haddad, se dit inquiet et en colère et il le souligne. Il y a déjà eu des blocages, mais jamais à ce niveau-là et avec cette dimension politique et idéologique. J'observe une contestation globale qui demande la démission du président de la République, la fin du capitalisme et des États. J'ai peur que Tolbiac se transforme en une ZAD universitaire, dit encore le président de la Sorbonne au quotidien Le Parisien.
Et en France encore, Norbert, ce sondage sur le sentiment de confiance des Français en matière de sécurité, c'est un sentiment en nette baisse.
Oui, sondage Odoxa pour Le Figaro qui indique que la confiance que les Français placent dans l'exécutif pour assurer leur sécurité a brutalement chuté après l'attaque islamiste du 23 mars dernier qui a fait 4 morts dans le sud de la France. Avant cet attentat, 49% des Français disaient faire confiance au gouvernement pour leur sécurité. Après, il n'était plus que 41%. 6 Français sur 10 avouent se sentir souvent ou tout le temps en insécurité. Et 2 sur 3 approuvent l'idée défendue par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb de confier à des entreprises privées des missions remplies par la police et par la gendarmerie.
En France, toujours, le président du Sénat désapprouve le projet de réforme des institutions d'Emmanuel Macron.
Oui, Gérard Larcher se dit en total désaccord avec la réduction de 30% du nombre de parlementaires voulu par l'exécutif. Dans un entretien au journal Le Figaro, le président du Sénat pose la question de la juste représentation des territoires. Avec 30%, elle ne peut plus être assurée, estime-t-il. Et puis au sujet du scrutin proportionnel, Gérard Larcher dit au Figaro avoir travaillé pour que le taux de proportionnel soit le plus faible possible, étant rappelé qu'il sera de 15%.
Et puis à la une également, Norbert, le très procédurier homme d'affaires français Vincent Bolloré, qui est à son tour visé par la plainte d'un jeune Camerounais.
À la une de Libération, Vincent Bolloré y est qualifié de maniaque de la plainte, et ce journal le trouve particulièrement chatouilleux. Libé recense les dernières procédures lancées par le président des conseils de surveillance de Vivendi et de Canal+, et souligne en effet qu'il est à son tour accusé de diffamation par un ouvrier d'une plantation camerounaise. Cette dernière action en justice fait suite au reportage diffusé dans l'émission Complément d'enquête sur France 2, au sujet notamment des activités en Afrique du groupe Bolloré. Un mineur du nom de Guillaume Ebo Dipanda, ouvrier dans l'une des plantations au Cameroun du groupe Bolloré, a cru se reconnaître et a porté plainte en diffamation après que Vincent Bolloré, lors d'une assemblée générale de ses actionnaires, ait affirmé que ce jeune homme, dans le reportage, avait 20 ans et qu'il avait été payé pour dire qu'il avait 14 ans. Ironique, Libération se demande quelle mouche tsetse a donc piqué Vincent Bolloré.
À lire donc dans la presse française de ce jour, revue de presse signée Norbert Navarro. Dans 30 secondes, toute l'actualité africaine sur Radio France Internationale.